Il faut pas oublier que cette plante est magique écologiquement et économiquement, et que tout ce qu'on peut en faire après artistiquement ou qui peut fédérer les gens, c'est à mon sens des belles choses. Finalement, légaliser le cannabis, c'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux, c'est le vœu, je crois, de 51% des Français. Il y a le lobby de l'alcool, qui voit évidemment d'un très mauvais œil l'arrivée d'un concurrent vert sur le marché du plaisir, parce qu'ils savent que dans tous les États, enfin on le voit dans tous les États au Canada, tout comme aux États-Unis, où l'herbe a été légalisée, le cannabis à usage récréatif a été légalisé, les ventes d'alcool baissent. L'outil de production du cannabis, il est là. Donc, ils ont tout intérêt à ce que ça n'arrive pas en France. Enfin, en France et en Europe. Nous, on reste assis sur une position dogmatique, hors de question de légaliser cette merde. Si la France ne va pas légaliser le cannabis avant probablement 2027, le cannabis thérapeutique, lui, va être légalisé à l'été 2024.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Info, le blog d'informations incontournable sur le CBD. On y retrouve des informations sur l'actualité du CBD en France et en Europe, des informations sur la législation et le lifestyle, mais aussi la rubrique interview qui est innovante et qui permet aux acteurs du CBD de s'exprimer avec authenticité. Sans oublier les nombreuses études et analyses. Et pour avoir de super promos, visitez CBD Info.
Hey, bonjour, c'est Damien et bienvenue sur Parlons Cana. Parlons Cana, c'est le podcast qui traite des actualités les plus chaudes du cannabis légal. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Parlons Cana saison 3. Après deux saisons historiques, on continue de démystifier la plante et d'explorer sa place au sein de notre société. Alors partons ensemble à la rencontre de personnes passionnantes, des scientifiques, des médecins, des politiques et des économistes, mais aussi des cannabiculteurs et des militants de très longue date. Avec eux, avec ces spécialistes, nous allons aborder les sujets les plus complexes, comme la légalisation, l'addiction, les expérimentations médicales, mais aussi le lobbying et les enjeux géopolitiques. Pour comprendre ce qu'il se passe ici en Europe, il faut bien observer ce qu'il se passe aussi ailleurs dans le monde. Nous aurons donc la chance de discuter avec des invités exceptionnels, basés en Thaïlande, au Maroc, en Colombie ou encore en Afghanistan. Mathias m'a confié le micro avec une seule mission. Interroger sans préjugés ni parti pris. Interroger pour chercher la vérité et te donner accès aux informations les plus récentes et les plus authentiques. Tu pourras enfin te forger ton propre avis sur le cannabis légal. Parlons Cana saison 3, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Parlons Cana. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexis Lemoine, le fondateur et le rédacteur en chef de ZeeWeed. Alors Alexis, pour parler de toi rapidement, donc tu m'as raconté que tu as beaucoup voyagé, notamment aux États-Unis, en Californie. Finalement, tu as reposé tes valises en France, à Paris. Et quel défi tu te lances ? Tu te lances le défi d'informer sur le sujet du cannabis via un magazine hebdomadaire. Alors on va parler voilà. Beaucoup de la presse écrite sur le sujet du cannabis, la difficulté d'écrire sur ce sujet, de la green culture, ça aussi on l'aborde très peu et pourtant c'est un sujet incroyablement vaste. Et ensuite on terminera par parler des raisons actuelles qui sont souvent citées par les, on va dire ceux qui sont un peu contre la légalisation aujourd'hui. Donc ça va être très dense, très riche. Je suis ravi de faire ça avec toi. Alexis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu personnellement avant de se lancer à fond dans la presse écrite, s'il te plaît?
Bien sûr. Bon, déjà, merci de me recevoir dans Parlons Cana. Je suis ravi de cette intervention. Alors, moi, je suis Alexis Lemoine. Je suis journaliste de formation. J'ai vécu une dizaine d'années à l'étranger, à Los Angeles. Et à Londres, en gros, pour la faire courte. Et après ces 10 ans passés outre-Manche et outre-Atlantique, je suis revenu en France où je me suis dirigé un petit peu dans la communication, la publicité. Avant de revenir à mes premiers amours, j'ai alors commencé à collaborer à un site, dans le journalisme, et j'ai commencé à collaborer avec plusieurs journaux, Technicart, Marie Claire, des journaux franco-français. Et il y a un site canadien qui m'a contacté parce que on avait des amis communs, qui s'appelle Zeeweed.com et qui a été créé juste après la légalisation en 2018 du cannabis au Canada, qui a suivi l'élection et la mise au pouvoir de Justin Trudeau en tant que premier ministre. Et donc nous sommes en novembre 2018 et on voit. Enfin, les Canadiens voient que cette légalisation, finalement, elle ouvre des portes économiques, sociales et même et une culture qui mérite d'être relayée. Et ce site Zeeweed.com parle du cannabis dans tous ses états et je commence à collaborer avec eux. Au début, je fais un article par mois et puis de plus en plus, voilà. Et je me retrouve finalement plongé dans l'univers du cannabis. Moi qui étais, qui avait une certaine connaissance de la plante et de ses usages, mais qui n'était pas non plus, féru de la chose. Et puis je commence à étudier au fur et à mesure des quelques deux ans où j'ai travaillé avec eux. La plante récréative que thérapeutique, que les solutions écologiques qui peuvent y être liées, que le CBD. Et en 2022, on se dit avec des amis, mais finalement, Zeeweed, c'est une super marque. Avec les Canadiens, on a un deal, on peut exploiter Zeeweed, la marque, en France, et on crée ce journal. On crée ce journal, donc le premier est sorti le 29 octobre 2022. Le second, parce que bon, il a fallu un petit peu de temps pour que ça se mette bien en place, est sorti fin mars. Le troisième va sortir tout début juillet et ça sera un trimestriel qui sera sans doute transformé en mensuel à partir du mois d'octobre.
Génial, voilà. Trop cool, ok. Bah bravo déjà.
Et alors,
je me pose la question du lien que vous avez encore aujourd'hui entre la maison mère au Canada et toi, ce que tu gères ici en France. Est-ce que vous avez des personnes des personnes qui écrivent un peu pour les deux, si en fait les sujets qui intéressent les lecteurs canadiens peuvent se transférer en France. Quel lien est-ce que vous avez encore entre les deux rédactions finalement?
Alors, entre les deux rédactions, le seul point commun dans les rédacteurs, c'est moi.
Okay.
Mais finalement, on renvoie nos lecteurs de Zeeweed France, du magazine Print, on les renvoie sur le site zeeweed.com. Au début, on était un petit peu inquiet que ça puisse paraître comme de l'incitation et des choses comme ça, parce qu'il y a des articles qui sont un peu crus sur le THC. Je crois qu'il y a un article, c'est le guide du premier pétard au réveil. Bon, c'est un peu cash.
Oui, en France, on n'en est pas.
On était un peu inquiet et puis finalement les avocats nous disent non mais voilà le site est hébergé au Canada, voilà les Canadiens pensent ce qu'ils veulent, vous pouvez on peut relayer des informations, ce n'est pas vous qui les écrivez. Donc voilà, finalement on s'est dit on va faire une espèce de multinationale média, je dis ça en rigolant mais c'est un peu l'idée, avec toute humilité gardée, on va faire une espèce de cross entre le Canada et la France, et on a conjugué nos talents alors qu'il y a quelque temps encore, on hésitait à mettre les deux marques et à réunir trop les deux marques.
Je trouve ça génial.
Se faire taper sur les doigts par la place.
Ah ouais. Oui, en même temps, peut-être que ça peut faire un peu peur ici, mais d'un autre côté, les Canadiens ont quand même des années d'avance sur la légalisation et donc sur le cannabis dans la vie quotidienne sous différentes formes. Donc c'est génial d'avoir aussi un peu leur expertise, ou en tout cas ce qu'ils connaissent de ça, alors que nous, on n'y est pas encore. En tout cas, on n'y est pas. Donc c'est trop cool de pouvoir profiter de ça et d'échanger entre les deux pays francophones, finalement. Enfin, pas que francophones au Canada, mais Zeeweed au Canada, il sort aussi en français?
Alors, Zeeweed, il y a des articles en français et en anglais, parce que le Canada oblige, autant au Québec, tout le monde parle français. Mais si on va, en Nouvelle-Colombie-Britannique ou même en Ontario, il y a pas mal de personnes qui parlent beaucoup mieux anglais que français.
Bien
donc, on a pas mal d'articles qui sont en anglais. sur le site theweed.com. Mais nous, ça nous permet finalement d'aborder des sujets que nous n'aborderions pas dans le magazine print Theweed distribué en France. Et puis voilà, finalement. C'est aussi simple que ça.
Et alors du coup, en France, vous, c'est de la presse écrite. Où est-ce que ça en est quelles sont les difficultés quelle est un peu la genèse de ce...
Pourquoi avoir sorti un magazine print à une heure où la presse écrite est mal en point? Il y a un dicton comme ça qui dit pour sortir un journal en ce moment, il faut être soit très con, soit très riche. Bon, je trouve que je suis fauché. Donc, je vais être un peu con sur les bords, mais je suis convaincu. Donc,
voilà. Belle.
Non, et je suis convaincu. Pourquoi on a sorti ça? Parce qu'avec la légalisation du CBD et la réhabilitation de la plante, il y a non seulement énormément de choses à dire, parce que la science maintenant peut se pencher sur la plante et ses applications. On fait du béton de chanvre, par exemple, des choses comme ça. L'écologie. Le chanvre répond à des défis écologiques majeurs en ce moment. On pourra revenir sur la question. En médecine, cannabis thérapeutique. En récréatif, on peut parler des autres pays, mais pas la France. Mais évidemment, en bien-être, le CBD et la green culture que nous aborderons plus tard. Donc, tous ces sujets, on s'est dit, il y a un public qui a besoin d'infos, qu'il ne trouve pas sur le net, à part sur notre site. Pourquoi? Et peut-être sur Newsweed, qui est un site très bien fait. Pourquoi? Parce que la plupart des autres sites sur le net, c'est de la promo. C'est de la promo pour vendre du CBD. Donc, en fait, on trouve des articles qui n'en sont pas, qui sont juste des publics rédactionnels. Donc, on s'est dit, bon, sur le net, il y a peut-être deux ou trois présences intéressantes, mais en print, à part nos amis de CBD Actu que je salue ici, mais qui n'ont pas exactement la même approche, il n'y a personne.
Pas la même approche, c'est-à-dire ?
CBD Actu, j'ai envie de dire avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est 100 pages de publi rédactionnel. Donc il y a plein de sujets qu'ils ne vont pas aborder et ils sont peut-être un petit peu nichés. Il y a quelques articles, quelques bons articles, et ils ont le mérite déjà d'être les premiers à avoir ouvert la brèche du print sur le sujet en France. Le magazine est très bien fait, mais nous on voulait quelque chose qui était beaucoup plus large, avec une ligne éditoriale beaucoup plus large. Vous me parliez des difficultés qu'on peut rencontrer quand on lance ce genre de titre. Et ben c'est ça, c'est ne pas rester trop niché, par exemple, ce qui est peut-être, et je dis ça avec tout le respect et la gentillesse que j'ai pour CBD Actu, ce qui est peut-être le cas de CBD Actu, qui parle de CBD, de CBD, de CBD, de CBD. À ce titre, nous, on est vraiment 360 ou 420 degrés, si vous voulez. on essaie d'aborder tous les sujets. Donc évidemment l'écologie, le côté alors le CBD évidemment et les côtés légaux, la bataille pour sa légalisation, aussi la green culture dont nous parlerons plus tard, les arts et des interviews aussi de personnes qui gravitent un petit peu autour de la green culture, qui sont amateurs de CBD et peut-être d'autres herbes. Là, on avait Vanille. Dans le numéro 3, nous aurons Kate Moss, qui a lancé sa marque de CBD en interview et en couve. Donc, vraiment, une ligne un peu plus large, un peu plus glamour, peut-être, sans tomber non plus dans le Marie-Claire de la... Marie-Claire du chanvre. Parce que j'ai travaillé à Marie-Claire. Mais voilà, on essaye d'avoir une approche qui inclut aussi plus les femmes, qui est plus large, quoi. Vraiment, c'est une ligne éditoriale large. Voilà.
Ok, je comprends bien. Donc, il y a la difficulté de peut-être pas rester trop niche sur le cannabis ou sur le CBD. Et la difficulté légale. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et est-ce que tu vois d'autres difficultés? Les difficultés légales, j'entends, par rapport à la pose du stupéfiant, par rapport à toutes ces choses-là.
Alors, Une autre difficulté, c'était de ne pas tomber dans le cliché du stoner, parce que déjà, ce n'est pas un message qu'on tient à passer, ce n'est pas un message qui rend service à une certaine notion de santé publique, et ce n'est pas un message qui rend service à la filière française chanvre, qui en est encore, enfin, assez balbutiement, qui est, voilà, qui est en devenir, mais qui n'a pas besoin d'une presse qui va troubler les messages, qui va brouiller les messages. Et donc, ne pas céder à ces clichés, ça veut aussi dire ne pas tomber dans l'incitation. Parce que l'incitation, fatalement, là, c'est puni par la loi. Et donc, nous, on se met un point d'honneur à ne jamais parler de manière élogieuse du THC, parce que on ne veut pas d'ennui et que de toute façon c'est pas le propos du print, du magazine print The Weed.
Ok, et tu vois d'autres difficultés sur je sais pas le fait que
à part le prix du papier qui a doublé.
Vous n'êtes pas encore en papier de chanvre.
Non, on a une couverture en chanvre pour le numéro 3, mais le papier de chanvre, on pourra revenir dessus. Le papier de chanvre, le problème, c'est que le papier de chanvre, les rotatives ne sont pas calibrées pour le papier de chanvre. Elles le sont juste pour le papier classique, cellulose.
Les rotatives, donc, c'est les machines d'imprimerie.
Oui, pardon. Les imprimeries ne sont pas calibrées, les machines ne sont pas équipées vraiment pour le papier de chanvre. Et donc, faire imprimer ne serait-ce que deux pages pour la couve en papier de chanvre, ça coûte une blinde, parce qu'il n'y a que très peu de personnes qui le font. Même si le papier de chanvre est, à mon sens, une vraie solution d'avenir écologique, pour la bonne et simple raison que quand on fait du papier avec du bois, eh bien, on va couper un arbre qui a mis 10, 15, 20 ans à pousser. Quand on fait du papier de chanvre, on va couper une plante qui a poussé en 9 mois. Voilà. On va aussi couper une plante qui est un puits de carbone. Le chanvre, ça absorbe énormément de carbone. On va couper une plante, bon, tout comme les arbres, qui n'a pas besoin d'insecticides pour pousser. Donc, c'est une solution d'avenir, mais ça suppose que toute l'industrie de la presse et du papier change son appareil de production, et ça, évidemment, ça a un coût. Et les industriels, alors qu'on est dans une période un petit peu compliquée économiquement, sont pas super chauds. Les initiatives, et que l'État pourrait finalement aider.
C'est vrai.
Voilà, parce que à l'heure où on parle de vœux pieux, de COP21, etc., ça fait partie à mon sens, tu vois, des priorités qui pourraient tomber sur le bureau du ministère de la transition énergétique ou machin. Voilà.
Complètement. Écoute, pour ne rien te cacher, j'essaye d'avoir quelqu'un d'Interchanvre, du syndicat Interchanvre, pour parler vraiment de tout ce qui est
on va pouvoir en parler.
D'écologie, d'agriculture.
D'accord. Donc, à faire double emploi, c'est ça?
Oui, bah, là, déjà, on en parle très peu sur Parlons Cana. Donc, déjà, le fait que tu commences à initier un peu la chose, à aborder un peu le sujet, c'est génial.
D'accord.
Après, je pense qu'il y aura vraiment au moins. Comment? Peut-être plus Joël.
D'accord. On aura une interview de Nathalie Fichaud, d'ailleurs, dans
Super.
Le numéro 3.
Trop bien.
Interchanvre. Et on pourra, justement, on peut en parler un peu, si tu veux, d'Interchanvre, qui a été longtemps pointé du doigt comme un des responsables de l'interdiction du CBD. C'est peut-être un peu le cas, mais ça ne sera plus le cas. Donc, ça peut te faire un lancement pour Interchanvre après. Tu peux le mettre quand tu veux, quoi.
Ouais, super. Écoute, on se le reprend peut-être juste avant un peu quand on parlait d'industrie. Pour faire le montage, ce sera plus simple. Quand tu disais que pour l'instant, les machines d'imprimerie n'étaient pas vraiment calibrées pour le papier de chanvre. On arrivera à recouper avec ça.
Oui.
Ok, c'est reparti.
D'accord. Oui, parce que pour l'instant, l'appareil de production des imprimeurs et des fabricants de papier n'est pas équipé pour produire du papier de chanvre. C'est juste du papier cellulose de bois. Et finalement, à l'heure où on parle beaucoup d'écologie, je pense que en matière d'aide de l'État, on a des aides à la rénovation thermique, etc. Aider les industriels à se mettre au papier de chanvre, ça serait un gros cadeau pour la planète. Ça serait aussi un gros cadeau pour eux parce que ça coûte beaucoup moins cher à l'achat la fibre de chanvre que la fibre de bois. Donc voilà, je lance le message aux autorités compétentes. Aidez, s'il vous plaît, les industriels à faire la transition. Voilà. Merci, messieurs les ministres.
Ben, tu fais bien de le faire. C'est vrai que c'est toujours un peu l'histoire de l'œuf ou la poule dans ces projets comme ça. C'est vrai que le champ pour l'instant n'est pas très aidé. On parlait juste avant un peu d'interchanvre qui fait énormément pour la filière chanvre qu'on aura certainement sur Parlons Cana. Je sais que tu me dis que tu vas avoir.
Oui, nous on a. J'ai eu le plaisir d'interviewer Nathalie Fichot. Très agréable et qui sera donc dans le numéro 3. Et c'est intéressant parce que Interchanvre s'est fait tirer dessus pendant assez longtemps. On leur disait oui, c'est vous qui essayez de plomber la filière bien-être, etc. Je crois qu'ils ont un peu porté le chapeau alors qu'ils y sont pas pour grand-chose. Et en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ils soutiennent la filière chanvre bien-être maintenant. Ils ont des chanvriers CBD dans leur giron et donc voilà, je voulais quand même rétablir les choses pour près d'Interchanvre et Nathalie Fichot que je remercie ici pour le temps et la gentillesse qu'elle m'a accordé lors de notre interview. Voilà.
Ben, c'est vrai qu'Interchanvre c'est un syndicat qui est très ancien, qui peut porter de gros projets. Aujourd'hui, là, on va parler un peu plus de green culture. C'est vrai que dans le monde un peu qui entoure le chanvre et le cannabis, on reste, en tout cas en France, on reste plus dans des initiatives, dans des projets un peu associatifs ou d'artistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette green culture? Comment tu la vois évoluer? Comment tu la vois grandir?
Alors déjà, je crois qu'il y a une définition qu'il faut un petit peu faire de la green culture ou en tout cas cadrer la chose, parce que la green culture, bon, hein, c'est un peu vague, mais la green culture finalement ça va de Baudelaire à Vanille, qui est en couverture du numéro 2. La green culture, c'est une attitude, c'est le respect de la planète, c'est le respect de la plante et de la planète, c'est le respect de la vie, c'est faire passer l'intérêt de la planète avant l'intérêt des hommes. Et alors après, en application, bon, ça c'est la première couche, la grande couche. C'est un peu une sublimation de la réalité, mais sans que ça soit un appel à la défense. C'est un état d'esprit qu'on va retrouver dans la musique et dans le cinéma, dans la gastronomie. Dans la musique, il y a des tas de musiques qui sont inspirées ou en tout cas qui résonnent pas mal avec le cannabis, hein, le rap, le reggae, l'électro et le jazz sont des musiques enfumées, comme disait Vanille. Le cinéma aussi, il y a des tas de cinéastes qui se réclament, et je parle pas de Cheech et Chong, mais qui ont un univers, une texture, un montage, une réale, qui fait écho finalement avec peut-être avec le cannabis ou en tout cas les perceptions qu'on peut avoir lorsque on apprécie la plante. La gastronomie, des tas de chefs se mettent à cuisiner avec du chanvre, du CBD ou du cannabis récréatif, mais pas juste pour faire des space cakes, pour faire des cookies à la weed, mais pour faire des plats qui tiennent vraiment de la haute gastronomie. D'ailleurs, à ce titre, on a quelques articles dans le numéro 2, on en aura dans le numéro 3, sur les grands chefs et les grands hôtels qui proposent maintenant des menus au CBD ou au chanvre, juste au chanvre pour le goût de la plante, ou pour le cas d'un chef new-yorkais, Mike Salman, au cannabis récréatif à New York. Voilà, la green culture aussi, c'est les fêtes, c'est les festivals qui réunissent finalement un public qui s'entend autour d'une même chose, qui a un peu un même esprit. C'est aussi le street art, c'est la green culture. C'est aussi l'histoire, finalement. La green culture, c'est aussi l'histoire où on se rend compte que depuis des siècles, il y avait des amateurs de la plante qui prenaient son usage, comme le pape Martin V, toujours dans le numéro 2, qui avait exigé qu'une recette de soupe au chanvre avec des vertus assez magiques soit inscrite dans le livre de cuisine du Vatican. Voilà, et qui, elle y est toujours d'ailleurs. Peut-être que ça l'a aidé à être en contact plus facile avec Dieu, mais voilà. Et puis c'est l'écologie. J'en parlais évidemment, c'est l'écologie, l'agriculture. Et puis c'est une économie aussi. C'est une économie. Voilà. Donc c'est tout un écosystème vertueux. Vertueux, parce qu'il ne faut pas oublier que cette plante est magique écologiquement et économiquement, et que tout ce qu'on peut en faire après artistiquement ou qui peut fédérer les gens, c'est à mon sens des belles choses. Quoi.
Et tu vois une évolution dans cette green culture depuis toi qui a été un peu aux États-Unis. Est-ce que tu vois des choses qui s'importent des États-Unis? Est-ce qu'en France on a une patte à nous sur dans ce monde-là? Est-ce que pour l'instant j'ai l'impression que c'est très underground? Est-ce que la légalisation va peut-être bouleverser un petit peu cette culture-là?
Oui, alors la légalisation va certainement porter beaucoup plus encore la green culture en France, mais il y a des gens comme Jean Jass et Caballero qui font IF in Zerbe, ça c'est assez génial. Il y a quand même des fiers représentants en France, mais ça reste minoritaire. Parce que, encore une fois, c'est pas légalisé et que, voilà, c'est marché sur une glace assez fine, enfin, c'est pas évident de pouvoir parler de ça sans se faire taper dessus.
Mais écoute, affaire à suivre, génial, j'ai hâte d'en apprendre plus justement sur tous ces projets, toutes ces initiatives dans ce monde-là. Est-ce que tu as deux, trois beaux projets? Tu nous parlais de musique, d'art, donc tu nous as parlé de vanille. Est-ce qu'en street art ou dans ce monde-là, tu as des projets en tête qui sont intéressants à voir?
Alors, des projets dans le magazine ou des projets personnels?
Les deux, qui ont été publiés ou qui n'ont pas encore été publiés, ou des choses que tu as lues, que tu as trouvées intéressantes, qui imagent bien cette green culture, peut-être plutôt en France, et que ceux qui nous écoutent puissent aller voir, aller faire un peu des recherches sur tel projet en street art, tel projet en musique.
Eh bien, quoi, alors, pour le street art, je les invite à parcourir le numéro 2 de notre magazine, qui est vendu en kiosque, The Weed, où on a fait 6 pages sur le street art. Donc, dans le numéro 3, nous aurons 10 pages avec un beau folio de 6 pages sur le street art. Et les grands artistes comme André, comme Space Invaders, etc., qui vont nous donner leur vision du street art et d'une certaine green culture. Il y a les festivals, évidemment, les festivals que nous allons mettre à l'honneur pour ce numéro d'été dans cette green culture. Tous les domaines d'application que je viens de vous donner, musique, cinéma, gastronomie, fête, street art, histoire, voilà, seront aussi à l'honneur dans le numéro 3 et l'été dans le numéro 2.
Ok, génial. Alors, du coup, pour l'instant, l'agriculture est peut-être un petit peu enclavée dans les barrières que mettent l'interdiction de parler de cannabis ouvertement, en tout cas sous toutes ces formes. On va parler un petit peu de légalisation. Je sais que t'as un avis bien tranché là-dessus. Je sais aussi que t'es bien placé pour avoir cet avis bien tranché, que tu es très, très cultivé sur le sujet. On parlait de deux sujets. Le premier, c'est peut-être qu'il y a des industries, il y a des lobbies qui sont un peu réticents, qui n'ont pas trop d'avantages à voir le cannabis arriver. Et puis peut-être aussi que c'est une forme de paix sociale qui est achetée avec une économie souterraine finalement qui est entretenue depuis des années avec le cannabis illégal. Voilà, je te laisse la porte ouverte.
Voilà, finalement, légaliser le cannabis C'est pas scandaleux. C'est pas scandaleux. C'est le vœu, je crois, de 51% des Français. Il y a eu des sondages à ce sujet, réalisés par nos amis de l'Obs, si j'ai bonne mémoire, avec Ipsos ou Ifop. Bref, 51% sont favorables à une dépénalisation. En tout cas du cannabis, dépénalisation et 49% légalisation. Et ça, c'était il y a 3 ans. En général, le curseur avance en faveur de la légalisation. Donc, je pense qu'une majorité de Français sont en faveur de la légalisation maintenant. Alors, pourquoi est-ce que l'État se prive d'une manne financière énorme alors que les caisses de l'État sont vides ? Deux réponses, à mon sens. Une réponse de lobby. Une réponse de lobby. Quand on voit qui finance finalement les campagnes des gouvernants, on comprend rapidement que ils n'ont pas envie de se mettre à dos les lobbies en question. Je crois que la directrice de campagne de Emmanuel Macron pour son second mandat, était à la tête de la Fédération des producteurs de vin. Enfin, voilà. Donc, il y a le lobby de l'alcool, qui voit évidemment d'un très mauvais œil l'arrivée d'un concurrent vert sur le marché du plaisir, parce qu'ils savent que dans tous les États, enfin, on le voit dans tous les États, au Canada, tout comme aux États-Unis, où l'herbe a été légalisée, le cannabis à usage récréatif a été légalisé, les ventes d'alcool baissent. Boum. Voilà. Il y a un autre lobby aussi, c'est le tabac. Un lobby immense. Voilà. Le tabac, je ne sais pas s'il voit d'un très très bon œil arriver. Autre chose qui se fume. Déjà, il ne voyait pas d'un très bon œil le CBD. Autre chose qui se fume, qui n'est pas addictif, et qui donne plus, si ce n'est autant de plaisir pour le CBD, on va dire, et puis plus pour le récréatif. Et il y a surtout, et enfin, le lobby Big Pharma, comme on dit, c'est-à-dire tous les laboratoires. Parce que au fur et à mesure que les choses évoluent pour la plante, au fur et à mesure que les recherches se font, parce qu'on a eu 50 ans où aucune recherche n'était faite, parce que c'était verboten, c'était interdit de se pencher sur cette plante. On découvre que avec le cannabis, on peut traiter les problèmes de douleur, mais vraiment chroniques et lourdes. C'est le cannabis thérapeutique. Il y a des vertus anti-inflammatoires. Il y a 10 000 applications.
La question qu'on se pose, déjà je te coupe, la question qu'on se pose, c'est s'ils sont si puissants que ça, pourquoi est-ce qu'ils prennent pas la vague cannabis et qu'ils investissent pas
Parce que déjà ils margent beaucoup moins. On peut pas vendre quand une molécule est mise sur le marché qui n'est pas encore passée en générique. Les mecs se font un max d'argent. L'herbe, ça coûte pas grand chose à pousser et c'est pas vendu grand chose. Donc les marges sont moins bonnes et ça voudrait surtout dire que les médicaments qu'ils produisent, les ventes vont s'écrouler. Et le secteur maintenant du cannabis, il est déjà assez avancé au Canada et aux États-Unis. L'outil de production du cannabis, il est là. Donc ils ont tout intérêt à ce que ça n'arrive pas en France. Enfin en France et en Europe. Et où ils ont tout intérêt à reculer. Alors certains laboratoires commencent justement à s'y mettre, mais ils ont pris du retard et pour l'instant, je pense que leur intérêt est franchement que le cannabis ne soit pas légalisé.
Pourtant, des appareils d'État commencent à être favorables à la légalisation. Comme tu le disais, les citoyens sont plutôt très favorables à la légalisation. Ça arrive partout dans le monde, ça arrive en Europe. Le sens de l'histoire est plutôt vers la légalisation.
Voilà, on fait le coup du Gaulois réfractaire, là. Le Gaulois réfractaire que notre président bâchait, mais pour le coup, c'est lui. Parce qu'on voit qu'en Allemagne, le cannabis va être légalisé, peut-être un peu moins que ce qui était prévu, mais sera légalisé. Au Luxembourg, ça arrive aussi. Malte a déjà légalisé. Bref, c'est une tendance globale. Et nous, on reste assis sur une position dogmatique, hors de question de légaliser cette merde. Bon, pourquoi pas ? Mais je pense qu'on passe à côté d'autres choses et que de toute façon, c'est inévitable. Donc, on peut faire l'autruche, on peut, voilà. Mais je crois que c'est inévitable et que le mieux serait d'accompagner cette vague verte qui se profile dans tous les autres pays. L'autre raison, à mon sens, pour laquelle c'est compliqué de légaliser, est dû à une approche plus sociale du problème. Le cannabis est vendu à 95%, 99% dans les quartiers, par les quartiers. Que ça soit livré chez les consommateurs ou que ça soit acheté dans les fours, c'est dans les quartiers. Et c'est une économie qui, par rebond, nourrit et fait vivre les quartiers. Donc, les priver de ça, c'est s'acheter là il y a une on s'achète une paix sociale finalement quand on ne légalise pas, parce que voilà, les quartiers peuvent vivre d'une économie parallèle. Ne plus leur offrir cette économie parallèle, on va se retrouver à gérer
tous ces quartiers. Là-dedans il y a deux sujets. Là-dedans, c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a très certainement des familles qui, par effet de rebond, profitent profite sans le côté négatif, mais profite des revenus de la vente de cannabis, qui seraient peinés par la perte de ce commerce. Mais d'un autre côté, il y a surtout les organisations mafieuses qui sont derrière et qui, elles, vraiment, ont beaucoup à perdre. Je pense que dans le cadre de la légalisation, sans forcément calquer ce qui s'est passé chez d'autres pays, on doit pouvoir trouver quand même un système qui fait que OK, on légalise et on essaie de s'accorder sans acheter d'une autre manière la paix sociale, mais en tout cas pour faire en sorte que les gens qui sont aujourd'hui dans l'illégalité puissent être insérés dans l'illégalité pour éviter quelque chose qui pourrait être de l'ordre du chantage de si vous légalisez, nous on perd trop de sous, donc on fait pression pour que ce soit pas légalisé. Alors, sur ce sujet-là, c'est toujours très compliqué de dissocier le fait qu'il y ait des gens qui en vivent ou qui en survivent plutôt, et le fait qu'il y ait d'autres, qui vraiment les organisations qui elles se gavent et se gavent et se gavent, et c'est elles vraiment le problème, c'est elles qui font vraiment pression. Mais allez.
Oui. Alors on reprend où, tu me dis? Dis-moi. On reprend où?
Moi, je suis bien intéressé par savoir un peu si tu as des informations sur est-ce qu'il y a un dialogue entre des gens de l'État et des gens un peu du milieu mafieux pour savoir, voilà, les gars, si on légalise, comment ça se fait? Est-ce qu'il y a vraiment eu des pressions faites par le monde mafieux? Ou est-ce qu'en fait, on s'imagine ça un peu comme un fantasme de « Ah, mais les voyous, ils vont pas aimer qu'on leur prenne leur argent, donc ils vont se défendre ».
À mon sens, il n'y a pas de dialogue avec les cartels et l'État. Il n'y a pas de dialogue avec les cartels et l'État. Le problème, il est vraiment social. Alors après, on enregistre là ?
Oui, vas-y. Tu reprends alors, quand tu veux.
Alors, il y a une réponse qui est appliquée aux États-Unis, qui a consisté à donner l'économie du cannabis légal en priorité aux quartiers défavorisés ou à ceux qui avaient été incarcérés pour de simples crimes liés au cannabis et qui ne sont pas des crimes violents, c'est-à-dire pour simple revente et dans des petites quantités, pas de transport international, etc. C'est eux qui, en premier lieu, se voient attribuer les dispensaires. C'est le cas à New York, dans l'État de New York, c'est le cas dans l'État de Californie et c'est le cas dans l'Illinois. Donc ça pourrait être un modèle en plus d'ascenseur social, donc un modèle assez vertueux. Mais je pense pas, hélas, que ça soit vraiment applicable en France, parce que c'est pas la mentalité européenne du vieux continent. Donc je vois difficilement ce modèle applicable en France, et c'est l'autre raison pour laquelle cette légalisation elle traîne. Et enfin, il y a une dernière raison qui complique toujours cette légalisation, c'est Bruxelles. Olaf Scholz, avec la coalition tricolore en Allemagne, a dit que s'il était élu, il légaliserait le cannabis purement et simplement. On pourrait, en étant adulte, aller acheter sa ganja dans le coffee shop du coin. Il s'est heurté à un feu orange, non pas rouge, de Bruxelles, parce qu'il y a des traités. Et il y a un droit international sur la question, et l'Allemagne légalisera, mais dans une moindre mesure. Ça sera pas Yahoo, on va acheter de la weed comme on achète de l'alcool, c'est-à-dire il faut avoir plus de 18 ans et disco. Je crois que la légalisation qui a été revue permettra de faire pousser 4 plants par personne en Allemagne, bon, ce qui est finalement pas mal du tout. Et en ce qui concerne la distribution, l'achat, je crois que c'est revu à la baisse. Donc voilà, cette légalisation qui devait être 100% full blast, comme on dit, qui était prévue pour 2024, elle sera plus light. Mais en France,
elle sera plus light, elle sera plus light, mais c'est quand même l'Allemagne, sans faire de compétition entre les pays européens. On sait bien que la France et l'Allemagne sont les pays qui, en termes d'économie, en termes de population, sont les plus importants. Si l'Allemagne fait passer ne serait-ce que un tiers de ce qui est prévu, ça fait quand même une jurisprudence, ça fait quand même un précédent. Amsterdam, on adore Amsterdam, mais bon, à un niveau européen, c'est quand même moins imposant que l'Allemagne.
Amsterdam, c'est anecdotique, hein, honnêtement. C'est une curiosité, c'est une excentricité, mais c'est pas un modèle. Donc effectivement, l'initiative allemande, tout comme la légalisation au Luxembourg qui va arriver, feront sans doute boule de neige ou boule de weed et pourront entraîner dans leur sillage d'autres pays et la France un peu isolée, et convaincre Bruxelles, et la France isolée sera bien obligée là de céder.
Pour oui, donc encore une fois, c'est incroyable de voir à quel point le sujet sur une plante, le sujet sur le cannabis, finalement, dans la légalisation, on a un aspect d'enjeu économique, un aspect d'enjeu social et même sociétal et international. Et tant que ces trois sujets ne seront pas plus ou moins aligné, la légalisation peinera. Il n'y a pas de.
Oui, mais alors.
Il y a quand même fort à espérer que la légalisation se passe par effet de ricochet ou par effet un peu de passage en force, comme il y a eu avec le marché du CBD. Je sais pas. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie-là?
Sur cette partie-là, alors je vais faire un crossover, comme on dit. J'ai une bonne nouvelle pour vos auditeurs, c'est que si la France ne va pas légaliser le cannabis avant probablement 2027, le cannabis thérapeutique, lui, va être légalisé à l'été 2024. Nous avons une interview du docteur Nicolas Autier qui a supervisé l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France qui entame sa deuxième phase. Donc ça fait 2 ans d'expérimentation déjà. Il y a encore une année d'expérimentation. À l'issue de cette expérimentation, le docteur Nicolas Autier est à peu près certain que le cannabis thérapeutique sera légalisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour à peu près 700 000 patients, donc des pathologies très diverses, 700 000 patients pourront avoir accès légalement, en pharmacie, à du cannabis. 700 000. 700 000 sur 1 million de fumeurs. J'ai envie de dire que c'est une légalisation sur ordonnance. Donc, c'est un premier pas, mais c'est un bon premier pas. Hein. C'est presque un
petit pas dans la porte.
Voilà. Vers. Comment? C'est le pas dans la porte, exactement. Bravo. Ouais. On avait déjà mis la petite brindille de chanvre dans la porte avec le CBD, mais là, c'est le pas, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, je pense, en attendant Godot. Voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup. C'est bien de terminer par cette info-là qui donne un peu de perspective. J'aimerais te donner
le mot de la fin, c'est que voilà, allez voir votre docteur en attendant. Allez voir votre médecin à partir de l'été 2024 et lisez The Weed.
Et les Ezioïdes.
Voilà.
Ok, génial. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Hâte d'en apprendre
merci,
plus
Damien,
sur, dans le magazine. Et voilà, je te laisse conclure.
Écoute, à très bientôt. Non, mais merci de m'avoir accueilli. À très bientôt, j'espère, pour le numéro 3. Et puis, ou alors au détour d'une information croustillante. Je suis toujours heureux de discuter et d'être avec vous.
Merci beaucoup. À plus.
Merci. Au revoir.
Merci beaucoup d'avoir écouté notre invité jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu as appris beaucoup de choses lors de cet échange. La mission de Parlons Cana, c'est de te mettre en relation directe avec des personnes expérimentées et passionnées. Nous, on est là pour toi. Donc si tu as envie qu'on aborde, ou si tu as envie qu'on approfondisse un sujet en particulier, s'il te plaît, contacte Parlons Cana sur les réseaux et partage-nous tes questions. Je me chargerai ensuite de les poser à nos invités. Merci encore pour ta confiance. À la semaine prochaine.
Cet épisode est sponsorisé par CBD Sport, le blog d'information dédié aux sportifs. Vous y trouverez de nombreuses rubriques, dont la musculation, l'endurance et la précision. Vous y serez conseillé sur la manière de prendre du CBD, que vous soyez débutant, professionnel ou expert. Venez feuilleter ce blog dédié uniquement au bien-être des sportifs. Alors rendez-vous sur www.cbd-sport.info.